Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas ? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés, qui croient et qui restent pieux. Il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur les ondes de Radio Téhéran en ce samedi 8 juillet 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Blocage des réseaux sociaux en France, Macron sous une avalanche de critiques. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Des hommes armés ont attaqué un poste de police à Zahedan, chef-lieu de la province du Sistan et Baloutchistan. Deux des terroristes ont été tués par les forces de l'ordre. Au Liban, lors de la prière du vendredi, les fidèles ont été pris pour cible par des assaillants. Et un comité de l'ONU a appelé la France à veiller à ce que l'enquête sur le mort de Nahel soit approfondie et impartiale. C'était les principaux titres. En voici le journal. Ce samedi matin, 8 juillet, quatre hommes armés ont attaqué un poste de police dans la province du Sistan et Baloutchistan, dans le sud-est de l'Iran, et ont ouvert le feu à l'aveuglette dans le bâtiment. Lors de cet attentat, un membre des forces de l'ordre et deux assaillants ont été tués. Tasnim News rapporte que deux des assaillants ont fait exploser leur gilet chargé d'explosifs devant le poste de police de Zahedan, chef-lieu de la province. Un membre des forces de l'ordre a été tué par les terroristes et deux des quatre assaillants terroristes ont été abattus par la police. La chaîne Al-Alam a d'ailleurs rapporté que les deux autres terroristes étaient encerclés par la police. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, s'est entretenu samedi 8 juillet avec son homologue algérien, Medhataf, au siège du ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran. Ils ont mené des échanges de vues sur l'élargissement des relations bilatérales sur divers plans, en particulier les relations économiques et commerciales, ainsi que les développements régionaux et internationaux, y compris les évolutions qui traversent les territoires occupés de la Palestine. Le ministre algérien des Affaires étrangères a insisté sur le développement des relations bilatérales avec la République islamique d'Iran dans divers domaines. Lors d'un point de presse avec son homologue algérien, le chef de la diplomatie iranienne a félicité le gouvernement et le peuple algérien à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Amir Abdollahian a déclaré que les relations entre les deux pays sont sur la bonne voie et qu'un accord bilatéral devrait être conclu sur l'annulation des visas politiques dans un premier temps, puis sur l'annulation des visas réguliers. Dans ce sens, un comité mixte de suivi sera formé au niveau du premier vice-président de la République iranienne, du premier ministre algérien et des ministères des Affaires étrangères des deux pays. L'Iran et l'Algérie comptent promouvoir leur coopération dans les domaines de la science et de la technologie, des entreprises fondées sur la connaissance, de l'agriculture, de la médecine, de l'industrie et des mines. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran poursuivait une diplomatie dynamique et des efforts pour protéger ses intérêts nationaux. Dans un post publié sur son compte Twitter, vendredi 7 juillet, Amir Abdullahian a fait un bref rapport sur ses démarches diplomatiques effectuées au cours de son voyage de 2 jours à Bakou. Le chef de la diplomatie iranienne a assisté à la réunion de 2 jours du mouvement des non-alignés MENA à Bakou, en Azerbaïdjan. Avec pour thème principal, MENA uni et résolu à affronter les défis émergents, la réunion ministérielle du MENA du bureau de coordination s'est ouverte mercredi. Le haut diplomate iranien a prononcé un discours lors de la réunion du MENA et a également assisté au comité ministériel de ce mouvement sur la Palestine. Dans son message sur Twitter, Amir Abdullahian a déclaré qu'il avait également eu des rencontres avec le président azerbaïdjanais et ses homologues de la Turquie, de l'Irak, de la Malaisie, du Soudan, de la Biélorussie, de la Syrie, du Koweït et du Nicaragua. Amir Abdullahian a déclaré avoir également rencontré Irad al-Maliki du mouvement de libération Fatah de Palestine. Une diplomatie dynamique est en cours pour poursuivre la réalisation des intérêts nationaux de l'Iran, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. S'adressant à la réunion ministérielle du bureau de coordination du MENA, il a rappelé l'existence d'une politique iranienne de consolidation des relations de voisinage en mettant l'accent sur les acquis remarquables de cette politique dans la lutte contre le terrorisme. Il a rappelé aussi que l'Iran a prouvé qu'il était un partenaire fiable pour les pays voisins. La production d'acier brut de la République islamique d'Iran a représenté 70% de la production totale de la région du Moyen-Orient au cours des 5 premiers mois de l'année en cours, selon les dernières données publiées par l'Association mondiale de l'acier, WSA. L'industrie sidérurgique iranienne a produit 13 millions de tonnes d'acier brut de janvier à mai 2023, enregistrant une hausse de 2,2% par rapport à la même période en 2022. Les producteurs d'acier situés au Moyen-Orient, dont l'Iran, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont produit ensemble un total de 18,7 millions de tonnes d'acier en once d'1,1%. Les 63 leaders mondiaux du secteur ont produit 786 millions de tonnes d'acier au cours de la même période, en baisse d'1,2%. Les pays d'Afrique, dont l'Égypte, la Libye, l'Afrique du Sud et la Tunisie, ont produit 2,6 millions de tonnes d'acier, en hausse de 2,6% par rapport à l'an dernier. La production d'acier des pays d'Asie et d'Océanie, dont l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam, s'est établie à 588,4 millions de tonnes, en hausse de 0,7%. Les 27 pays de l'Union européenne en ont produit au total 56 millions de tonnes, en baisse de 10,4%. Plusieurs fidèles ont été pris pour cible lors de la prière du vendredi 7 juillet dans le village de Bralias, dans la province de la Beka, dans l'est du Liban. Lors de cette fusillade qui a eu lieu, alors que les fidèles étaient en train de sortir de la mosquée, 2 fidèles ont été tués et quelques autres blessés, a écrit Al-Mayadin. On ignore encore le motif et l'identité des auteurs de l'attaque. L'assaillant a finalement été grièvement blessé par balle des forces de renseignement de l'armée libanaise avant d'être transféré à l'hôpital. Un comité de l'ONU a appelé vendredi la France à veiller à ce que l'enquête sur le mort de Nahel, un adolescent tué par la police près de Paris, soit approfondie et impartiale et a appelé à l'interdiction du profilage racial. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, CERD, composé de 18 experts indépendants, a fait part de ses préoccupations concernant le profilage racial et l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre. Il condamne le pillage et la destruction de biens privés et publics, ainsi que les informations faisant état d'arrestations massives et de détentions de manifestants. Il se dit aussi profondément préoccupé par la pratique persistante du profilage racial et l'usage excessif de la force par les responsables de l'application des lois, en particulier la police, contre les membres des groupes minoritaires, les personnes d'ascendance africaine et arabe. Le comité s'est par ailleurs félicité de l'ouverture d'une enquête sur les circonstances qui ont abouti au mort de Nahel, qui a suscité une éruption de violence en France. L'instance onusienne a appelé les autorités à s'attaquer en priorité aux causes structurelles et systémiques de la discrimination raciale, y compris dans la mise en vigueur des lois. Cette intervention du CERD intervient au moment où le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a validé l'interdiction de la marche prévue samedi 8 juillet en mémoire d'Adama Traoré pour le 7e anniversaire de sa mort. Le président américain Joe Biden a approuvé ce vendredi, au terme de plusieurs mois d'intenses débats internes à Washington, l'envoi d'environ une centaine de milliers d'armes à sous-munitions à l'Ukraine, en dépit de la législation américaine qui interdit quasi inconditionnellement la production, l'usage ou le transfert de ce type d'armement. Le gouvernement ukrainien a appelé le gouvernement du président américain Joe Biden à approuver l'envoi de munitions conventionnelles améliorées à double usage, DPICM. La Maison-Blanche a déclaré vendredi que les États-Unis enverraient à l'Ukraine un paquet d'armes à sous-munitions pour l'aider dans sa contre-offensive contre la Russie. Biden a affirmé que cette décision était très difficile, mais que les forces ukrainiennes en manquaient. Soit ils ont les armes pour arrêter les Russes maintenant, les empêcher d'arrêter l'offensive ukrainienne dans ces zones, soit ils n'en ont pas. Et je pense qu'ils en avaient besoin, a-t-il dit. Le Pentagone a annoncé dans un communiqué que le nouveau programme d'aide militaire annoncé vendredi comprenait des munitions conventionnelles améliorées à double usage, faisant référence aux armes à sous-munitions. Les bombes à sous-munitions sont interdites en vertu de la Convention sur les armes à sous-munitions, un traité international qui traite des conséquences humanitaires et des dommages inacceptables causés aux civils par les armes à sous-munitions par le biais d'une interdiction catégorique et d'un cadre d'action. Voilà, si ça achève le journal, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Blocage des réseaux sociaux en France. Macron sous une avalanche de critiques. En réunion avec des maires, mardi 4 juillet, dans un contexte tendu, après plusieurs nuits de violence à travers la France, le président français Emmanuel Macron a affirmé que l'une des options pour contrôler les manifestations pourrait être de couper l'accès aux plateformes de médias sociaux telles que Snapchat et TikTok. Nous avons besoin d'avoir une réflexion sur l'usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes, sur les interdictions que l'on doit mettre, et quand les choses s'emballent, il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper, a-t-il dit lors d'une réunion avec 220 maires, dont les communes ont vu des milliers de personnes qui protestaient contre le gouvernement. Il ne faut surtout pas le faire à chaud, et je me félicite qu'on n'ait pas eu à le faire, a-t-il ajouté. Selon le gouvernement, lors des récentes manifestations de protestation d'envergure en France, des jeunes ont utilisé les médias sociaux pour organiser les manifestations à la suite du meurtre de Naël, jeune adolescent de 17 ans par un policier dans la banlieue parisienne. La semaine dernière, Macron a pointé du doigt les plateformes de médias sociaux et les jeux vidéo, faisant valoir qu'ils sont à l'origine des violences à travers l'Hexagone. Ces propos ont provoqué une vive réaction de l'opposition. La cofondatrice du collectif Front des Mères, Fatima Ouassak, qui représente les parents des quartiers populaires, a déclaré que la question est une diversion. C'est une tactique de distraction. Au lieu de discuter de la question de la brutalité policière, nous parlons de la responsabilité des médias sociaux et des parents, a-t-elle dénoncé. Mercredi, le gouvernement français a tenté de minimiser les remarques de Macron sur la possibilité de couper les réseaux sociaux pendant les troubles. Les responsables de l'Élysée ont déclaré que le président ne menaçait pas d'une panne générale, mais plutôt d'une suspension occasionnelle et temporaire des plateformes. Le président a dit que c'était techniquement possible, mais pas que c'était envisagé. « Rien ne doit être exclu par principe », a déclaré le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot. Interrogé sur les propos de Macron lors d'une conférence de presse mercredi, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, indiqué qu'il pourrait y avoir des suspensions temporaires de fonctionnalités comme la géolocalisation qui permet aux utilisateurs de se retrouver à tel ou tel endroit, de montrer telle ou telle scène. Dans le sillage des manifestations, certains législateurs français ont tenté cette semaine de resserrer les taux sur les plateformes de médias sociaux lors des votes sur le projet de loi actuellement en discussion à l'Assemblée générale.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans ce débat de l'attaque sanglante d'Israël contre Jenin, un camp de réfugiés laissant de nombreux martyrs. Alors beaucoup de pays, dont Hamas, le Hezbollah libanais, ainsi que les Yéménites et bien sûr les Iraniens, ont condamné fermement ces attaques barbares contre le camp de réfugiés de Jenin et réitérant bien sûr leur soutien inconditionnel à la résistance palestinienne. Nous allons donc développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le raid israélien sur Jenin suscite de vives réactions et de forts messages d'avertissement de la part des factions de la résistance dans la région. Le vice-président du bureau politique du mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a prédit que les soldats de l'ennemi israélien périront dans les embuscades tendues par la force de la résistance. Israël n'a pas l'habitude de tirer des leçons des expériences du passé, surtout son cabinet criminel actuel, qu'on pourrait qualifier de fasciste selon tous les critères du monde, a affirmé ce lundi 3 juillet Saleh al-Arouri, vice-président du bureau politique du Hamas, en réaction aux vastes attaques terrestres et aériennes menées depuis lundi matin par l'armée sioniste sur Jenin en Cisjordanie occupée. L'agence de presse Shahab, qui cite le responsable du Hamas, continue comme suit. Nous avons confiance dans la ferme volonté du peuple et de la résistance dans le camp de Jenin. Nous sommes sûrs et certains que l'ennemi israélien échouera à briser la volonté de la résistance à Jenin. Il subira une défaite humiliante avec ses soldats morts dans les embuscades de la résistance. Les raids israéliens de ce lundi matin sur le camp de réfugiés de Jenin ont également fait réagir le mouvement de résistance libanais Hezbollah. Selon la chaîne de télévision Al-Alam, le Hezbollah a vivement condamné les attaques barbares du régime sioniste contre le camp de réfugiés de Jenin, réitérant son appui inconditionnel à la résistance palestinienne. Les combattants palestiniens ont prouvé leur vigilance et leur capacité à faire échec au plan de l'ennemi avec ses unités d'élite et ses armes sophistiquées. Outre une volonté indéfectible, le peuple, la résistance palestinienne dispose de divers moyens et options pouvant faire regretter l'ennemi pour ses agissements, lit-on dans le communiqué du Hezbollah.
Et bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par André Chamy, juriste international, qui nous avons le plaisir d'accueillir depuis l'Alsace. Monsieur André Chamy, bonjour.
Bonjour à vous téléspectateurs, ainsi qu'à Monsieur Cohen.
Justement, un grand bonjour à Jacob Cohen, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris. Monsieur Cohen, bonjour.
Bonjour aux auditeurs, merci pour l'invitation et bonjour à Maître Chamy.
Ma première question va s'adresser à vous, Monsieur Cohen. Alors, Comment se fait-il qu'Israël ne prend pas leçon donc, des attaques menées par ces derniers contre des camps de réfugiés ou bien des villes palestiniennes? Et comment avoir donc l'audace de s'en prendre encore aux camps de réfugiés, je vous prie?
En fait, la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens, c'est un paramètre qui rentre dans la politique intérieure israélienne, c'est-à-dire l'usage de la force de temps en temps pour montrer qui est le maître, pour renforcer le front intérieur. Et puis troisièmement, c'est que les Israéliens ont besoin de maintenir un état de tension, pas toujours aussi élevé, mais ils ont besoin, pour affermir le front intérieur et pour maintenir cet état de guerre dans lequel est plongée la société israélienne. J'ai des contacts avec des proches qui habitent en Israël, et malheureusement, ils succombent à la propagande sioniste qui leur dit « Vous voyez, on ne peut pas faire la paix avec les Palestiniens, avec les Arabes, il faut toujours faire usage de la force. » Et d'ailleurs, cette invasion de Jenin, ce massacre, a reçu quasiment l'unanimité du front intérieur israélien. Et ça, c'est vraiment une dimension sur laquelle je voulais dire un mot, c'est que les sionistes sont convaincus qu'ils mènent une guerre quasiment existentielle, alors qu'il y a une armée, peut-être la cinquième ou sixième du monde, qui s'attaque à un camp de réfugiés. Et ils font de ça une espèce de guerre existentielle. Il y a une unanimité. Et j'ai l'impression que vraiment la leçon qu'on peut tirer, c'est qu'avec les sionistes, on ne peut pas trouver un modus vivendi pacifique.
André Chami, M. Cohen a ouvert un chapitre très intéressant concernant le régime sioniste. Et bien entendu, le peuple israélien a été toujours et toujours, bien sûr, contre donc ces crimes commis par le régime israélien contre des innocents palestiniens. Que pensez-vous vis-à-vis de cette opinion, je vous prie?
Comme l'a signalé M. Cohen, il y a effectivement un aspect intérieur par rapport à toutes ces opérations militaires. On profite toujours, d'ailleurs ça dure depuis 70 ans, à chaque fois qu'il y a eu une attaque, que ce soit contre un pays arabe, que ce soit contre les camps palestiniens qui étaient éparpillés ou qui sont éparpillés dans les pays voisins, au Liban, en Syrie et en Jordanie, il y a eu au cours de l'histoire, au cours de ces 70 ans, différentes attaques par l'aviation, par les hélicoptères ou par des commandos. Et à chaque fois, il y avait un prétexte pour dire qu'il fallait liquider les terroristes où qu'ils soient. Et c'était devenu en quelque sorte l'ADN de la politique intérieure israélienne, c'est-à-dire où qu'ils soient, ces fameux terroristes, il fallait les attaquer et les liquider. Et même ça fait partie de la propagande de l'État israélien par rapport à ça, notamment par rapport à ce qu'on appelle à l'époque les militants de l'OLP ou FPLP, et même de ceux qui ont participé à l'attaque du Munich. Il y a eu une propagande constante par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a un problème interne, c'est-à-dire il faut satisfaire le sentiment de sécurité que ressentent les Israéliens, ou plutôt le sentiment d'insécurité, parce que il y a évidemment depuis un certain nombre d'années, moi ce que j'appelle les loups solitaires, c'est-à-dire des personnes qui font partie de la jeunesse palestinienne, qui n'appartiennent à aucune organisation palestinienne, en tout cas pour l'essentiel, même si parfois ils sont en quelque sorte adoptés par telle ou telle organisation parce qu'on trouve des liens même indirects, mais il y a beaucoup de loups solitaires qui mènent des attaques, et on constate après effectivement qu'ils ont pu réussir quelques exploits, même si le terme exploit n'est pas nécessairement adapté pour ce type de situation. À partir de là, Il est nécessaire pour, entre guillemets, la sécurité israélienne de riposter. Et les ripostes se font de quelle manière? Alors, soit d'abord contre la famille de ce jeune palestinien, soit contre la localité, voire au-delà, concernant le lieu d'habitation ou le lieu d'appartenance de ces personnes-là. Et nous sommes aujourd'hui dans une espèce d'escalade parce qu'on n'arrive pas à les localiser. Bien pire encore, entre guillemets, pour l'armée israélienne, c'est-à-dire aujourd'hui, les incursions deviennent de plus en plus difficiles, que ce soit à Gaza, que ce soit dans les, en Cisjordanie, y compris dans le camp de Jenin, qui est encerclé partout. Par conséquent, on fait des opérations qui se représentent sur le plan militaire de la poudre aux yeux parce qu'il y a une reconnaissance de l'armée israélienne que la dissuasion aujourd'hui est en situation d'érosion, c'est-à-dire aujourd'hui elle ne remplit pas son rôle puisqu'il n'y a pas de véritable dissuasion, c'est-à-dire vous pouvez mener toutes les attaques que vous voulez, il y aura tous les jours soit des loups solitaires, soit des opérations militaires ou individuelles qui pourraient être menées à l'initiative des organisations palestiniennes, puisqu'aujourd'hui elles se trouvent en quasi-unité, même si chacune d'entre elles rame tout dans son sens, mais le Fatah n'est plus le Fatah d'avant, c'est-à-dire le Fatah de Yasser Arafat. Et vous avez également, vous avez la FPLP, vous avez le FPLP, vous avez le Hamas et le djihad islamique.
Absolument.
C'est-à-dire ces organisations palestiniennes sont devenues incontrôlables sur un territoire éparpillé et aujourd'hui elles s'organisent de plus en plus et elles s'arment de plus en plus. C'est-à-dire c'est un casse-tête, pour ne pas dire autre chose, pour l'armée israélienne, mais il faut satisfaire l'opinion publique intérieure. Cette opinion publique intérieure est toujours sous le choc à chaque fois qu'il y a une nouvelle opération, et on essaie de les satisfaire tant bien que mal, mais la question fondamentale, c'est-à-dire quelles sont les relations futures entre les Israéliens en tant qu'Israéliens ou entre l'entité sioniste et les Palestiniens, aujourd'hui, cette question n'est pas résolue et n'a pas de perspective à venir.
Absolument. Nous allons développer cette question tout à l'heure, si vous le permettez, M. Cohen. Alors, André Chami a évoqué, bien sûr, pour accalmer le sentiment d'insécurité qui existe chez le peuple israélien, de faire recours à des opérations militaires telles que l'attaque contre le camp de réfugiés. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour le régime sioniste pour accalmer le sentiment d'insécurité et à faire de nombreuses victimes, de nombreux martyrs et surtout des victimes chez les soldats israéliens qui existent bien sûr à chaque attaque?
Non, parce que l'autre alternative, c'est une recherche de la paix. Et les Israéliens ne veulent pas la paix. C'est-à-dire... il y a un consensus dans la population juive israélienne de 95% qu'il ne peut pas y avoir d'État palestinien indépendant. Ça veut dire la seule chose que les Palestiniens pourraient obtenir, même chez les socialistes israéliens, etc., la seule chose qu'ils pourraient obtenir, c'est un Bantoustan sous contrôle israélien. Donc, dans la mentalité sioniste, un État palestinien est impossible, un État réellement indépendant. Donc la donc tout ce que les sionistes font, c'est de dire à leur population, d'ailleurs je l'entends régulièrement, je l'ai entendu ce matin, etc., malheureusement la population palestinienne ne veut pas comprendre de vouloir vivre en paix avec nous. Voilà. Et donc en fait le régime sioniste, l'establishment sioniste enferme sa propre population dans une impasse, c'est-à-dire on ne peut pas faire la paix avec ces gens-là. Et donc, on est obligé, malheureusement, de recourir à la violence et il faut en payer le prix. Malheureusement, la grande majorité de la population juive israélienne succombe à ce genre de raisonnement et accepte de payer le prix. Et c'est une logique, c'est dans l'ADN du sionisme de ne pas baisser la garde, de maintenir un état de tension, parce que il y a aussi une chose, c'est que le régime sioniste n'a jamais défini ses frontières. Le régime sioniste n'a jamais dit voilà ce que je veux pour avoir la paix. Voilà, je veux telle frontière, telle garantie, etc. Il vous le dira jamais. Le régime sioniste s'est toujours opposé à une conférence internationale qui dirait bon, on va trouver un compromis, parce que il a toujours envie d'aller au-delà du Jourdain. Ça, c'est un rêve sioniste bien sûr, on ne le dit pas, c'est un non-dit, mais il reste ancré dans le non-dit, dans l'esprit sioniste depuis les origines. Et donc, en fait, C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix avec ce régime sioniste. Toutes les paix qui sont signées sont menées soit sous le régime de la Pax Israelana, ça veut dire « ok, on se soumet, vous êtes les plus forts », soit il ne peut pas y avoir soit un état de guerre. Donc voilà le drame que nous vivons malheureusement et dont le peuple palestinien paye constamment le prix fort.
Jacob Cohen, ce que vous dites est terrible, bien sûr, car on peut difficilement donc croire à l'avenir une paix durable entre donc dans la région. Mais la raison est de constater que, avec des armes sophistiquées et avec l'appui inconditionnel de certains pays et des organisations telles que le Hamas, le Hezbollah les Libanais ou bien sûr les Yéménites et bien entendu l'Iran, donc qui dispose donc d'une force importante. Est-ce qu'à l'avenir, donc, le régime sioniste va continuer de mener des opérations telles quelles ?
Ah, pour moi, incontestablement. Ça veut dire que le régime sioniste il s'est enferré dans une logique de guerre et il en accepte toutes les conséquences. Et le régime sioniste, encore une fois, il veut enfermer sa propre population. Vous savez, il y a une raison pour laquelle les sionistes ne veulent pas la paix. Je vais vous en donner une. Il y en a plusieurs. Il y a d'abord le front intérieur. Mais le front intérieur, qui est la société israélienne, est une société éclatée, qui finirait en guerre civile s'il n'y avait pas le conflit extérieur. Deuxièmement, imaginez, vous savez qu'Israël est un État apartheid de fait. Ça veut dire que la population arabe à l'intérieur d'Israël, qui constitue 20-25% de la population, est strictement divisée. Ça veut dire un système d'éducation arabe et un juif. Les juifs et les arabes n'habitent pas ensemble, etc. Donc, en fait, il y a un apartheid. S'il y a la paix, les juifs et les arabes ne se rencontrent jamais. Les Israéliens, d'accord ? Les Israéliens se rencontrent très, très rarement. S'il y a une paix, ça veut dire que les juifs et les arabes vont aller à l'école ensemble, vont aller à la plage ensemble, vont voyager ensemble, etc. Mais c'est la fin du sionisme. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le sionisme, par nature, il a dans l'ADN qu'il doit rester juif et donc et ne pas se mêler. Et le risque, ce risque-là de se mêler, c'est un risque que l'establishment sioniste préfère la guerre parce qu'il croit qu'il peut toujours gagner la guerre, que baisser la garde et se fondre dans un environnement arabo-oriental qui le perdrait.
Jacob Cohen, dans ce but, nous avons une forte impression que les États-Unis et certains pays occidentaux sont dans le même objectif que le régime sioniste. Sans leur soutien, peut-être que cette DNN que vous avez évoquée tout à l'heure n'est pas possible.
Oui, parce que Israël joue le rôle de chien de garde de l'Occident. Vous savez, un exemple, qui a armé le régime sioniste dans les années 50, c'est la France. Est-ce que vous savez que jusqu'en 67, l'Amérique tournait le dos à Israël ? L'Amérique n'a jamais voulu vendre les armes à Israël avant 67. Kennedy a voulu éliminer le programme nucléaire israélien. C'est l'Amérique qui a obligé le régime sioniste à reculer, à revenir du Sinaï qu'il avait conquis en 56. Mais l'Amérique, en 67, a découvert, après la guerre de 67, à quel point Israël peut devenir un chien de garde à son service. Et c'est pour ça qu'il est soutenu. Mais si l'Occident, par ailleurs, je ne sais pas, avec l'évolution internationale actuelle, perdait de sa superbe, peut-être qu'Israël perdrait de son utilité.
Maître Chami, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Je partage l'essentiel de ce qui a été dit par M. Cohen. Je rajouterai un point, si j'ose dire. Dans l'ADN du sionisme, il y a un principe fondamental, c'est la prise d'otage des Juifs. C'est-à-dire, à l'origine, si on prend l'origine du sionisme, je dirais la majorité des Juifs n'en voulaient pas. Il a fallu une minorité qui a entraîné, entre guillemets, la communauté juive dans cette voie contre l'opinion juive de toute l'Europe, c'est-à-dire les juifs allemands étaient contre, les juifs français étaient contre. C'est la raison pour laquelle ils ont été à Bâle, d'ailleurs, pour faire leur premier congrès, avec une petite minorité qui était en quelque sorte triée sur les volets pour essayer de constituer quelque chose qui représenterait ce noyau. Et ce noyau-là était constitué sur une idée tout simplement raciste, c'est-à-dire on crée notre État et tout ce qui est autour de nous serait nécessairement des sauvages. D'ailleurs, c'est le sens du courrier qui a été envoyé par l'organisation internationale juive à l'attention de Lord Balfour par rapport justement à la création de l'État. Et d'ailleurs, ce sont les propos qui sont tenus, c'est-à-dire nous ne sommes les seuls, entre guillemets, alliés de l'Occident dans ce coin où il n'y a autour de nous que des sauvages. Partant de cette idée-là, évidemment, les Européens étaient en quelque sorte contents d'avoir quelqu'un qui peut servir de base, de repli pour l'Occident. Mais derrière, il y a un problème fondamental, c'est que après cette prise d'otage, il y avait une sorte de propagande parmi la population juive à travers le monde pour dire nous sommes les seuls, nous sommes devenus en quelque sorte les seuls protecteurs des juifs dans le monde. C'est la raison pour laquelle si vous avez peur dans votre pays, si vous avez des problèmes dans votre pays, ben vous venez chez nous. Et ça s'est développé de cette manière-là, aussi bien par rapport à ce qui s'est passé, le pogrom en Ukraine et à la frontière avec la Russie. Aujourd'hui, l'Israël s'approche de l'Ukraine, mais en réalité, c'est là où il y a eu le premier pogrom, si j'ose dire, contre les Juifs. Évidemment, c'est la raison pour laquelle on voit les premiers migrants juifs qui sont arrivés en Palestine, c'était de cette région-là, parce que... le sentiment de peur mêlé à cette appartenance au mouvement sioniste faisait qu'il devait se retrouver dans cette région-là. Et derrière, évidemment, il y a eu un effet d'entraînement. Mais également, il y a cette idée de racisme, c'est-à-dire nous, nous sommes indiscutablement un peuple pur. Et derrière, il n'y a que des sauvages. C'est la raison pour laquelle même Golda Meir, on dit qu'aujourd'hui les ministres israéliens disent qu'il n'y a pas de Palestiniens, mais même Golda Meir, quand il a dit qu'il faut rendre le territoire que vous avez occupé en 67 aux Palestiniens, elle a répondu, mais il n'y a pas de Palestiniens. Ça veut dire pour elle, il n'y a pas de Palestiniens. Pour elle, c'est un terrain vague. Et Noam Chomsky, quand il récite, et même Ilan Pappe, quand il récite les mythes de l'idéologie sioniste, ou en tout cas qui se trouve à l'origine de cette idée d'Israël, c'était quoi? C'est que c'était une terre sans peuple. C'est-à-dire ce peuple, il est rapporté, il n'existe pas, et il est en quelque sorte voisin, mais en réalité il est limitrophe, mais il n'a aucun droit sur ce territoire. C'est-à-dire l'idée même d'une présence de population arabe dans cette zone-là est exclue dans le paradigme, entre guillemets, israélien. Et nous sommes donc face à cette contradiction, c'est-à-dire il y en a un qui reconnaît, qui ne reconnaît même pas l'existence de l'autre, aussi bien en tant qu'humain comme occupant et bien entendu comme quelqu'un avec lequel on peut négocier, ou en tout cas avec lequel on peut cohabiter. Vous avez les ingrédients pour imaginer que aucune solution ne peut être trouvée. Et à un moment donné, l'autre fois, je participais à une conférence, je leur disais, aujourd'hui, nous sommes devant une situation, il ne faut pas se demander si une guerre va éclater dans cette zone-là, et je dis bien une guerre généralisée, au risque de choquer pas mal de monde autour de moi, mais malheureusement, c'est la seule chose que j'entrevois. Il ne faut pas se demander si cette guerre va avoir lieu, il faut juste se demander à quel moment elle va avoir lieu. Et nous sommes devant cette situation-là, qui donnera ce qu'elle donnera, c'est-à-dire quelle serait la conséquence de cette guerre-là. Mais comme la dissuasion a disparu, ou en tout cas a subi une érosion particulièrement importante, nous verrons avec quelle armée l'antisioniste va se battre et dans quelles conditions la résistance, y compris de la population israélienne, va se maintenir, c'est-à-dire ces pièces rapportées qui sont venues de partout dans le monde, que ce soit d'Europe ou d'Afrique ou d'ailleurs, comment ils vont tenir? Est-ce qu'ils vont accepter de vivre dans l'insécurité indéfiniment? On parle d'immigration maintenant dans le sens inverse, c'est-à-dire ce sont des Israéliens qui partent à l'étranger dans la balance aller-retour. C'est le retour qui prime. parce que justement, il y a ce sentiment d'insécurité, il y a ce sentiment qu'on n'est pas assez protégé et que l'armée qui nous promettait être la première armée de cette région-là n'est plus celle qui fait peur. Et par conséquent, nous verrons malheureusement, je dirais pour toute la région, parce que moi je ne suis pas un amateur de guerre, je ne suis pas quelqu'un qui appelle à une guerre massive, mais malheureusement, c'est la seule chose qui attend d'être déclenchée et ce sont les conséquences de cette guerre qui vont décider de l'avenir de cette région-là, en tout cas de cette zone.
Absolument. Maître André Chamy, depuis l'Alsace, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et un grand merci à Jacob Cohen, expert de questions internationales, qui a accepté notre invitation depuis Paris. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Le dollar américain sera-t-il remplacé par le yuan? Alors que la dédollarisation prend de l'ampleur, les investisseurs mondiaux considèrent de plus en plus le yuan chinois comme un futur remplaçant potentiel du billet vert. La tendance à la dédollarisation est là pour durer, admettent les experts américains, arguant toutefois qu'il n'y a toujours pas de substitut au billet vert, moyen de paiement librement convertible et monnaie de réserve dominante. Il y a une très bonne raison pour laquelle le dollar est largement utilisé dans le commerce, et c'est parce que nous avons des marchés de capitaux profonds, liquides et ouverts, un état de droit et d'instruments financiers longs et profonds, a insisté la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, la semaine dernière. Cependant, le président de la banque russe VTB, Andrei Kostin, ne partage pas la position de Yellen, projetant en mai qu'il y a tout lieu de s'attendre à ce que le yuan chinois remplace le dollar américain comme principale monnaie de réserve et de règlement dans le monde dès la prochaine décennie. Alors, qui a raison ? Le 1er octobre 2016, le yuan chinois, ou renminbi, RMB, a rejoint le panier de devises de réserve du Fonds monétaire international, FMI, qui constitue le droit de tirage spécial des TS. Le panier comprenait auparavant le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre sterling. Le DTS, un actif de réserve internationale, a été créé par le FMI en 1969 pour compléter les réserves officielles de ses pays membres. Selon le FMI, l'inclusion du yuan dans le DTS est devenue une étape importante dans l'intégration de l'économie chinoise dans le système financier mondial. Pourquoi le yuan n'est-il pas encore une monnaie de réserve majeure? Les sceptiques disent que le RMB n'est toujours pas aussi largement utilisé que le dollar américain. Le billet vert reste la monnaie dominante dans le monde, représentant 88% de toutes les transactions en avril 2022, tandis que le RMB n'était utilisé que dans 7% de toutes les transactions. La part du yuan dans les réserves de change mondiales était inférieure à 3% à la fin de 2022, tandis que le dollar et l'euro se vantaient de 58% et 20% respectivement. De même, la part mondiale du renminbi était de 2,5% en mai, ce qui est bien loin des 43% pour le billet vert ou des 32% pour l'euro. Les experts occidentaux affirment que les contrôles des capitaux de la Chine et la transparence limitée des marchés financiers empêchent toujours le yuan de devenir une monnaie mondiale majeure. En réponse, leur pair chinois note que la principale caractéristique du yuan est de servir l'économie réelle, ajoutant que des contrôles laxistes pourraient conduire à une demande spéculative pour la monnaie chinoise. Le yuan chinois a récemment démontré la plus forte augmentation de sa part de marché, passant de 4% en 2019 à 7% en 2022, et devenant la cinquième devise la plus échangée, passant de la 35e place en 2001. De plus, le RMB s'est avéré être la cinquième monnaie la plus échangée, devise la plus utilisée pour les paiements mondiaux en avril 2023, même si elle se classait au troisième rang en 2011. La Chine pousse à l'internationalisation du RMB. En 2015, elle a créé le système de paiement interbancaire transfrontalier CIPS pour faciliter les paiements transfrontaliers en yuan. En 2018, la République populaire a lancé les premiers contrats à terme sur le pétrole brut libellé en yuan au monde pour permettre aux exportateurs de vendre du brut en renminbi. Auparavant, la Banque populaire de Chine, PBOC, avait également commencé des recherches sur une monnaie numérique en 2014 et lancé des tests dans 4 villes de Chine en avril 2020. La Chine pousse à l'internationalisation du RMB. L'initiative La Ceinture et la Route de Pékin, un ensemble de projets d'infrastructures et de routes commerciales audacieux, a en effet facilité l'internationalisation du yuan. La Chine joue également le rôle de prêteur, le gouvernement et les entreprises offrant des prêts importants aux pays en développement. L'année dernière, la part des réserves de change libellées en dollars américains est tombée à 59,8% contre 72% en 1999, selon le FMI. Même si le yuan est toujours à la traîne par rapport au dollar et à l'euro, le changement géopolitique en cours pourrait potentiellement l'élever au statut de devise majeure, selon les observateurs internationaux. Après le début de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, le collectif occidental a restreint l'accès de la Russie au système mondial de paiement en dollars SWIFT et gelé les avoirs de sa banque centrale. Cette situation a démontré que le dollar pouvait rapidement se transformer en un mécanisme punitif, suscitant des inquiétudes parmi les acteurs mondiaux. Dans le même temps, les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine ont rendu le billet vert particulièrement cher pour les emprunteurs étrangers et ceux qui ont payé leurs aliments, matières premières et autres produits de base en dollars américains. En janvier 2022, avant la décision de la Fed, la directrice générale du FMI a averti que l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis pourrait se retourner contre l'économie mondiale et en particulier sur les pays dont la dette libellée en dollars est plus élevée. Alors que la tendance à la dédollarisation prenait de l'ampleur, les pays en développement ont commencé à se tourner de plus en plus vers le yuan ou les monnaies locales, les considérant comme un antidote à la militarisation du système financier mondial par Washington et à l'utilisation de systèmes alternatifs ou nationaux pour les paiements internationaux. Quel pays utilise le yuan ? Après avoir été banni du système financier centré sur le dollar, la Russie est passée au paiement en yuan pour son pétrole et son gaz naturel. Plus tôt cette année, le RMB a remplacé le billet vert en tant que devise la plus échangée en Russie. De même, le ministère russe des Finances a doublé la quantité du RMB et d'or dans le fonds de richesse nationale. Certaines sociétés russes, comme Rosneft, ont émis des obligations libellées en renminbi. En mars 2023, l'offre s'élevait à 15 milliards de yens avec un taux de coupon de 3,5% par an. Selon Rosneft, en termes de roubles, ce placement est le plus important des émissions d'entreprises actuellement en circulation. De son côté, l'Argentine s'est tournée vers le RMB pour faire face à sa crise monétaire. La nation latino-américaine devrait également émettre des titres dans la devise chinoise. Plus tôt en avril, l'Argentine a commencé à payer les importations en provenance de Chine en RMB. Plus tôt cette année, le Brésil et la Chine ont conclu un accord pour utiliser leurs deux devises dans le commerce bilatéral d'une valeur d'environ 163 milliards de dollars par an. Il a été annoncé en avril que le Bangladesh paierait la Russie en RMB pour la construction d'une centrale nucléaire. en mars, le géant chinois de l'énergie, CNOOC, et le français Total Energy ont conclu leur premier accord de gaz naturel liquéfié réglé en yuan. De même, en février, il s'est avéré que Bagdad prévoyait de payer les importations du secteur privé en provenance de Chine en RMB pour réduire la pression sur le dinar irakien. Le même mois, il a été signalé que Tesco, une chaîne de supermarchés britanniques, avait décidé de payer ses fournisseurs chinois en yuan. Les médias chinois ont récemment admis que si le yuan avait fait des progrès notables dans l'internationalisation, sa valeur avait baissé par rapport au dollar américain. La semaine dernière, la devise chinoise a atteint un creux de 7 mois face au billet vert, soulevant la question de savoir si les autorités monétaires du pays interviendraient. Plus tôt cette semaine, la Banque populaire de Chine, PBOC, a publié des directives strictes concernant les taux de change de la monnaie chinoise, tandis que le chef de l'administration d'État des changes a été nommé chef de la Banque centrale à la fin de la semaine dernière. Même si la dépréciation du renminbi est citée comme un énorme défi pour le nouveau chef de la PBOC, les observateurs chinois pensent que le yuan n'a aucune base pour une baisse à long terme. Selon le Global Times, à mesure que la tendance à la dédollarisation prend de l'ampleur, la proportion d'entreprises utilisant le règlement en renminbi dans le commerce a augmenté. Avec plus de liquidités injectées dans le système financier mondial pour répondre à la demande croissante de yuan, les fluctuations de la devise semblaient prévisibles, ont noté les médias, s'attendant à ce que la part mondiale du renminbi continue de croître.
Thank you.